Vous écoutez Fréquence 6. Cette semaine, on vous propose quelque chose de différent. Une émission exceptionnelle pour les passionnés de radio.
On vous apprendra tous les secrets des grands professionnels et les conseils d'un célèbre présentateur aux jeunes journalistes.
Bonjour tout le monde, bienvenue à Sur le Vif en ce lundi 30 mai. Incroyable mais vrai, hein, c'est cette semaine qu'on passe au mois de juin.
Et oui, vous avez peut-être reconnu cette voix qui nous accompagne ici à Ottawa. Mercredi 6 avril, nous avons eu le privilège de passer 2 heures avec Philippe Marcoux au CDI. D'habitude, la web radio c'est 1 heure. Mais comme c'était un jour spécial, on a pu rater un cours et surtout avoir le plaisir de manger un goûter.
On a commencé par une table ronde où Philippe a répondu à toutes nos questions. C'est Yacine, notre technicien, qui nous passe le micro, et William gère le son. Ensuite, on est passé au studio pour des conseils personnels à chaque journaliste et à chaque présentateur. Chloé, Laura, Sybille, Jonah, les deux Emma, Maya, Émilie et bien entendu, Félix et moi avons pu avoir la chance d'enregistrer avec Philippe notre 4e émission.
Ça nous a vraiment fait progresser sur l'écriture des textes et la manière de parler. Mais nous donnons tout de suite la parole à Philippe pour notre première question posée par Christophe.
Depuis combien de temps êtes-vous présentateur?
Alors bonjour, je m'appelle Philippe Marcoux, je suis l'animateur de l'émission du Retour à la maison, comme on dit ici, de 15h à 18h à la radio de Radio-Canada pour la grande région d'Ottawa et Gatineau. Ça fait 25 ans que je fais de la radio et de la télévision. J'ai commencé ma carrière à Radio-Canada à Regina, en Saskatchewan. J'y ai passé 2 ans. Ensuite, j'ai fait de la pige, qu'on appelle, je ne travaillais pas officiellement pour Radio-Canada, bien que la plupart de mes reportages étaient diffusés à Radio-Canada. J'ai fait de la pige donc à Bangkok, en Thaïlande, où j'ai passé 1 an. Ensuite, je suis revenu ici, j'ai recommencé à travailler pour Radio-Canada à Toronto. Et là, je suis devenu animateur. Puis ensuite, je suis allé vivre en Angleterre. J'ai vécu à Londres pendant 3 ans, où j'ai fait beaucoup de reportages. Et là, j'ai eu l'occasion de faire des choses absolument extraordinaires. J'ai couvert des célébrations du 60e anniversaire du débarquement de Normandie sur la plage de Juneau, qui est la plage où les Canadiens étaient débarqués. Je suis allé à la guerre, je suis allé en Afghanistan pendant 1 mois. J'ai suivi les troupes canadiennes en 2004. Écoutez, j'ai couvert l'arrivée du Tour de France. J'ai fait des choses absolument hallucinantes. Et puis, je suis revenu à Montréal et là, je suis devenu quelque chose entre le reporter et l'animateur parce que je faisais la revue de presse, l'émission du matin à Montréal pendant plusieurs années, jusqu'à temps qu'on m'offre la possibilité de venir ici à Ottawa et d'être l'animateur du matin, ce que j'ai fait pendant 7 ans avant de décider que ça suffisait de me lever à 2h30 le matin. Et je suis passé à l'émission d'après-midi en septembre dernier.
Sybille et Jola lui ont ensuite posé des questions sur ses études.
Est-ce que vous avez fait des études liées au journalisme après vos études d'avocat ou vous vous êtes lancé comme ça?
Excellente question. Non. Techniquement, je suis allé à une école de radio, là, mais j'ai passé 3 mois à cette école-là. Non. J'étais très formé et je me pensais capable de me lancer dans ce métier-là sans formation. Heureusement, Radio-Canada ne fait pas ça. Prendre des gens qui n'ont pas l'expérience, puis les mettre en onde. Essentiellement, les 2 années que j'ai passées en Saskatchewan ont été des années de formation. J'ai appris mon métier à la dure, sur le terrain. J'ai fait mes erreurs là-bas, mais ça m'aurait sans doute aidé. Mais à ça, j'ajouterais que c'est une très bonne idée d'avoir une autre formation avant de faire du journalisme. Parce que le journalisme, c'est un métier, c'est pas une profession. La nuance est subtil, mais et c'est parfois une technique. C'est une technique de recherche d'information. C'est une bonne idée d'avoir des connaissances plus pointues dans un domaine, quel qu'il soit. Hein. Moi, j'ai le droit, mais l'étudier la biologie avant, là, c'est parfait. Mes collègues qui sont les plus performants, je dirais, sont généralement ceux qui ont une formation dans un autre domaine avant d'avoir fait du journalisme ou des communications.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir présentateur?
Qu'est-ce qui m'a donné envie de devenir présentateur? Wow! Je pense que j'ai toujours voulu être présentateur. Comme beaucoup de monde, j'avais pas vraiment compris la différence entre être un animateur à la radio qui présente des chansons, là, puis je veux rien enlever à mes amis qui sont animateurs dans des stations musicales. Mais moi, je voulais être animateur, mais je voulais être animateur à Radio-Canada. Mais là, j'avais pas très bien compris qu'il fallait peut-être que j'apprenne à faire du journalisme avant de devenir animateur à Radio-Canada. C'était un ami à moi, Michel Cauger, qui est chroniqueur dans à peu près tous les médias qu'on connaît. Et Michel m'avait dit, mais Philippe, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux être une vedette ou tu veux être un journaliste? J'avais pas compris qu'il fallait que je choisisse entre les deux. Et à ce moment-là, j'ai décidé de devenir journaliste. Résultat, je suis jamais devenu une vedette. Bon, mais je suis pas sûr que ça me manquait. Mais je pense que j'ai toujours voulu être animateur pour répondre à ta question. J'ai été responsable de toutes les radios étudiantes que j'ai rencontrées. Alors voilà, je pense qu'il y avait un message là.
Après, c'est Félix qui a voulu apprendre les secrets de fabrication d'une émission.
Je sais, ça a l'air d'un vieux monsieur qui vous dit qu'il faut travailler fort, mais il faut travailler fort. Il n'y a pas d'autre solution. Je suis toujours un peu en préparation pour mes émissions. Je suis en train de vous parler, là, puis dans ma tête, il y a toutes sortes de choses qui font « Ah, OK, c'est ça qui intéresse quelqu'un qui fait de la radio à 11 ans au lycée. » Peut-être dans 2 ans, je vais dire « Ouais, mais moi, j'avais rencontré des élèves au lycée Claudel, puis ils n'étaient pas dans cette dynamique-là. Pourquoi est-ce que les choses ont changé? Ou est-ce que les choses ont changé? » Le matin, je lis 3-4 journaux, je les passe rapidement, je passe les unes, je m'assure qu'il n'y a pas de sujet là qui ressort du lot. On a une rencontre à 10 heures avec mon équipe, les recherchistes, et puis on décide. Qu'est-ce qu'on fait? Quel sujet, mais de quelle façon? On en discute, on décide dans quelle langue on veut en parler et, par conséquent, avec qui on veut en parler. Parfois, j'affecte un reporter à une histoire. Parfois, on fait juste entendre un son. Des fois, c'est une converse avec un journaliste qui couvre cette affaire-là. Ou on a un invité. Bon, mais c'est qui l'invité? Idéalement, on a un plan A, B, C, parce que on peut pas savoir si les gens vont accepter de nous parler. Et puis après ça, ben les recherchistes vont faire leur travail et moi, je m'assure de lire le plus largement possible sur tous ces sujets-là qu'on a identifiés. Question d'être prêt. Est-ce qu'on peut pas tout prévoir? Vous faites une entrevue en direct, vous allez poser des questions, vous écoutez les réponses et là, les réponses, ils vont vous surprendre. Mais vous allez être plus surpris par les réponses si vous êtes mieux préparé parce que là, vous avez une liste de questions, là. Et si je vous répondais, « Ah, j'ai pas besoin de me préparer, voyons donc, je m'assois, puis j'allume le micro, puis... » Ça vous surprendrait. Vous vous attendiez pas à ça. Mais là, peut-être que c'est pas la prochaine question dans votre liste que vous allez poser. C'est une autre question. Vous allez me poser une toute autre question parce que ma réponse va vous avoir surpris. Mais encore une fois, pour que cette question-là soit intelligente, la prochaine, il faut que vous soyez bien préparé. La préparation, là, c'est vraiment ça le secret, c'est de se remplir la tête.
Puis, on s'est focalisé sur des questions sur son métier, comme cette question posée par Sybille.
Vous aviez dit que ça vous faisait très peur de relayer une fausse information. Est-ce que ça vous est déjà arrivé?
J'ai déjà relayé une information comme étant confirmée alors qu'elle ne l'était pas. Mais non, j'ai jamais relayé une information qui était dans les journaux puis qui s'est avérée, en fait, qui s'est pas avérée, parce que on fait pas ça à Radio-Canada. On a notre propre équipe de journalistes. Si l'information est dans le journal, mais qu'elle n'a pas été confirmée par Radio-Canada, moi, je la relayerai pas. Mais ça m'est sûrement déjà arrivé de relayer une information. On peut pas être parfait. On peut juste faire un maximum de vérifications et, ben, en cas de doute, se retenir. Je la transmets pas l'information si je suis pas sûr.
Et maintenant, cette partie d'émission s'adresse en particulier à tous les journalistes et les techniciens qui veulent apprendre ce métier. Écoutez les conseils indispensables de Philippe Marcoux.
Pour commencer, la règle d'or pour tout bon journaliste et animateur, c'est écouter. Alors, écoutez bien, justement.
Vous pensez que le journalisme, c'est un métier de parole. Et je suis ici pour vous dire que c'est un métier d'écoute. Que le principal talent d'un journaliste, c'est l'écoute. C'est d'être capable de comprendre, d'entendre et de comprendre ce que les gens lui disent. Poser des bonnes questions, avoir une bonne voix, c'est important, évidemment. Mais c'est pas ça, le principal talent. Il faut apprendre à être curieux. Il faut se poser des questions, puis écouter les réponses, les analyser, pas attendre les réponses que vous voulez entendre. Faut entendre les réponses qu'on vous donne. Et puis, parfois, ça va vous surprendre. Mais ça, c'est une bonne nouvelle, parce que ça rend votre histoire plus intéressante si vous êtes surpris. Si vous ne faites que confirmer ce que vous pensiez, il y a probablement un problème, parce que vous pouvez pas tout savoir avant de commencer.
Ensuite, le premier conseil aux jeunes journalistes, développez votre curiosité.
Qu'est-ce qui est le plus difficile pour un présentateur, selon vous?
La curiosité. Mais c'est vrai pour tous les journalistes. C'est encore plus vrai pour un présentateur dans ma position, parce que moi, la même journée, je peux parler de la guerre en Ukraine et d'un problème de nid de poule à Gatineau, d'un nouveau médicament contre la COVID, à l'intérieur de 3 heures, là, facilement. Tu dis, OK, c'est dans ça que je suis un expert aujourd'hui. Entre le début et puis la fin de votre journée, vous devez devenir un peu un expert sur un sujet, puis vous savez pas lequel. Mais je dirais que la curiosité, c'est le principal.
Deuxième conseil. Pour rendre l'émission plus vivante, évitez de tout écrire, sauf quand on lit des billets sonores, des petites histoires qu'on raconte, comme ceux faits par Emma et Maya sur les traditions du monde.
C'est intéressant, tout est scripté, c'est normal, mais vous devriez tendre vers, justement, ne pas utiliser des textes scriptés. Vous savez ce que vous voulez dire, vous avez des notes, ben là, on s'entend, là, une phrase, ça peut toujours aller, mais je pense que c'est toi qui me posais la question sur le naturel. Ben, c'est beaucoup plus facile d'être naturel si vous n'avez pas de texte. Si vous avez un texte devant vous, vous allez toujours le lire. C'est vrai pour moi, c'est vrai pour tous les jours, je me dis, non, je devrais me mettre des mots-clés, mais non, c'est plus simple de lire un texte. Mais j'ai pas connu beaucoup de personnes qui étaient capables de lire un texte et d'avoir l'air naturel.
On a encore du mal à suivre ce conseil, Félix. À présent, un conseil à nos techniciens. Il faut, quand on peut, ajouter davantage de sons que l'on a enregistrés nous-mêmes. Évitez les banques de sons.
Vous aviez prévu des sons, on les a pas entendus, là, mais les rires sorcières, les poules, les chants angéliques, tout ça, j'imagine que...
On peut les mettre après.
On peut les ajouter. Mais ça, c'est une excellente idée, là. C'est malheureusement le compromis qu'on fait beaucoup parce qu'on manque de temps. Dans les reportages, même nouvelles, c'est l'absence de son. Bon, dans un reportage nouvelle, il faut que votre son il soit naturel, il faut qu'il soit vrai. Vous n'allez pas dans une banque de sons là pour prendre un rire de sorcière là, c'est pas. Mais si vous avez l'occasion de prendre un bruit de foule, un bruit de tambour, de la musique, quelque chose qui se passait.
Ou de rencontrer une sorcière.
Si par hasard vous croisez une sorcière, bon, et puis qu'elle se met à rire, vous l'enregistrez. Mais je me suis déjà tenu 10 minutes devant une vache pour en attendant, en espérant qu'elle me fasse un mot parce que j'étais dans une exposition agricole. Ça a fait un super bon reportage, là. Mais il faut que votre son soit naturel, mais mettre du son. C'est un médium de son.
Philippe Marcoux nous a aussi expliqué quand un micro-trottoir est intéressant et quand il n'apporte rien aux auditeurs.
Qu'est-ce que c'est Pâques pour vous?
Pâques pour moi, c'est une journée de famille. On cherche des œufs de Pâques.
Je trouve que Pâques, c'est une journée pour les enfants et pour tout le monde, vraiment.
Pâques, c'est être avec sa famille et pouvoir manger des chocolats.
Les gens que par hasard vous allez croiser sur la rue, leur opinion vaut ce qu'elle vaut. Hein? Bon. Mais ça, c'est une situation où vous êtes sûr que peu importe à qui vous posez la question, il va y avoir une réponse et ça va être une réponse intéressante parce que tout le monde a une opinion. C'est donc un de ces cas où un micro-trottoir tout à fait justifié et ça met de la couleur.
Il faut aussi lire plusieurs fois à voix haute pour, encore, la fluidité.
Vous écrivez un texte, il est très beau, mais il est peut-être pas intéressant quand il est lu. Des phrases trop longues, il y a des mots que vous ne prononcerez jamais, mais que vous écririez tous les jours, vous les enlevez. Puis en lisant votre texte, à voix haute, hein, c'est important, là, vous le lisez pas dans votre tête, là, vous le lisez à voix haute, isolez-vous s'il faut, mais en lisant votre texte à voix haute, vous allez les voir les embûches. Si vous vous accrochez toujours au même endroit dans la phrase, changez la phrase, vous avez le droit, c'est vous qui l'écrivez.
Ouais, parce que quand on écrit comme un texte, ça peut alors comme vraiment bon, mais là, comme si tu le conjugues tout au passé simple, là, quand tu penses ça,
impossible. Aimer, ouais. Exactement. Exactement.
Et enfin, un autre conseil est de s'adresser plus à vous qui nous écoutez, chers auditeurs et auditrices.
L'introduction, ça sert à quelque chose. C'est pas juste pour ouvrir, pour que ça soit la première phrase. Faut attirer, c'est l'accroche. Faut attirer l'attention de l'auditeur tout de suite. Alors, de demander à la journaliste, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre sujet? Ben là, pourquoi tu penses que la journaliste est là? C'est sûr qu'elle est là pour te dire quelque chose de plus sur son sujet, là. Alors, il faut savoir, en radio, là, c'est vraiment hallucinant. Les gens vous écoutent toujours. C'est pas vrai à la télé, mais à la radio, les gens vous écoutent en faisant autre chose. Il y a personne qui s'assoit devant sa radio puis qui écoute. Comme ça. Donc, vous avez un public qui ne porte pas attention à ce que vous dites. Il faut toujours attirer leur attention. Il faut dire « Hey, hey, toi, l'auditeur! Toi, là, écoute-moi, là. Je sais que tu es en train de faire la vaisselle. Tu peux continuer, mais là, tu m'écoutes. » Puis on fait ça en leur vendant le sujet dès le départ.
Pour finir, Laura a posé une question compliquée et Philippe Marcoux nous a proposé une réflexion sur la liberté d'expression.
Comment faites-vous pour assurer la liberté d'expression de chacun sans risquer de choquer les auditeurs?
Ha! Ha! Wow! OK. Oui, oui. Non, c'est tout à fait légitime, là. On se pose cette question-là tous les jours, là. C'est sûr. C'est une très bonne question. Moi, je dois respecter la liberté d'expression des gens, mais j'ai pas d'obligation de leur donner de l'espace d'antenne. Le fait de ne pas laisser certaines idées arriver à mon émission, c'est pas de brimer le droit à la liberté d'expression des gens. Le droit à la liberté d'expression, c'est on vous interdira pas de vous exprimer. Mais aujourd'hui, là, vous avez pas besoin de moi pour vous exprimer, vous faire entendre. Là. Les médias sociaux sont assez clairs. Là. Tout le monde peut y dire tout ce qu'ils veulent. Alors, la vraie difficulté, je veux faire entendre toutes les voix. En fait, le plus de voix possible. Mais je dois aussi ne pas choquer mes auditeurs. Mais ça, choquer mes auditeurs, ça me dérange pas tant que ça. C'est surtout de leur fournir une information qui est fausse. Ça me préoccupe tous les jours. Alors, je suis obligé de décider, ben oui, mais cette personne-là à qui je donnerais le micro, qui s'exprime, qui se fait beaucoup entendre, disons, sur les médias sociaux, est-ce qu'elle exprime une idée qui est défendable? Moi, présentement, les deux cas classiques, les gens qui prétendent que la COVID n'est pas une maladie préoccupante, les gens qui nient qu'il y a du réchauffement climatique. Ils existent, ils se font entendre, ils ont le droit de s'exprimer, mais nous, à Radio-Canada, on a décidé que non, on va évaluer ces opinions-là sur la base de la science. Et la science n'est pas derrière eux. C'est pas facile comme choix, là. Puis, les gens qui nient le réchauffement climatique, on les a déjà fait entendre à l'antenne. À un moment donné, avec les années, on a décidé non. Là, ça, c'est réglé. Il y a un consensus scientifique. C'est pas simple. Mais cela dit, je reprends votre expression, choquer mes auditeurs, ça me dérange pas, ça. Il faut le faire de temps en temps. Il faut brasser les choses.
Et voilà, s'achève une émission fantastique sur le métier de la radio.
Au revoir et à la prochaine.